En 2010, l'équipe de l'Atelier des médias a impulsé la création d'une plateforme pour réunir des blogueurs. L'objectif premier était de faire une blogosphère francophone plus inclusive, qu'émergent des voix des pays du Sud dans le monde numérique. 14 ans plus tard, ils sont quelques 1200 à être passés par là et avoir profité de ce projet qui est à la fois un média, mais aussi d'une certaine façon une école, puisqu'une équipe, ici à Paris, accompagne ces blogueurs recrutés chaque année sur concours. Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. À la radio ou en podcast, c'est vous qui choisissez. Depuis novembre 2018, dans cette émission, vous entendez chaque semaine la voix d'un de ces mondo-blogueurs. Ce sont des lectures d'articles de blog par leurs autrices et auteurs. Ils s'enregistrent par téléphone et nous envoient une note vocale. On a appelé ça mondo-blog audio et on a été très fiers de vous les faire entendre. À compter de ce mois d'avril 2024, mondo-blog audio va rejoindre l'émission 8 milliards de voisins sur RFI. Chaque jeudi, vous continuerez donc d'entendre ces voix du monde, mais dans une émission de société, ce qui, il faut bien le reconnaître, fait totalement sens. Pour souhaiter bon vent à Mondoblog Audio, Simon De Creuse et moi-même vous proposons d'écouter une infime partie de ces Mondoblog Audio, car il y en a eu plus de 200. On va commencer avec le tout premier Mondoblog Audio, qui nous emmenait au Mali avec Georges Attino. En plein mouvement MeToo, aussi appelé Balance ton porc, il écrivait « Chez nous, on ne balance pas les porcs, ils sont halal ».
Mondoblog.
Au Mali, on refuse de se regarder en face. On botte en touche en cherchant des causes externes à nos problèmes internes. Quand on parle de droits des femmes, on fait référence à une influence étrangère. L'argument phare, c'est de dire que l'Occident souhaite modifier nos modes de vie. Mais on oublie que les victimes de ces crimes sont des personnes qui sont nées et qui ont grandi chez nous. Quel est le rapport entre une femme battue jusqu'à la mort ou une fille victime de viol et la France ou l'Union européenne? Aucun. Au Mali, qui n'a jamais entendu autour d'un thé des phrases du genre « Les femmes sont mauvaises, mais nos mères n'en font pas partie ». Parce que dans la tête de l'homme malien, il y a plusieurs catégories de femmes. Les hommes pensent qu'ils doivent impérativement respecter une catégorie de femmes, les mères, mais pas forcément les autres, qui doivent plutôt se soumettre. Il faudrait amener les hommes à comprendre qu'ils doivent du respect à toutes les femmes, quelles qu'elles soient, mères ou non. Chez moi, c'est courant de voir des publications du genre après une affaire de viol. Qu'est-ce que la fille faisait là-bas? Les filles s'habillent mal et nous provoquent. Des arguments du genre qui tentent de défendre l'indéfendable. L'indéfendable.
Restons au Mali, où l'on peut écouter RFI sur l'application Pure Radio ou en ondes courtes. Nos émetteurs FM ayant été coupés par les autorités de Bamako en mars 2022, il y a 2 ans donc. Depuis la capitale, l'excellent photographe Ousmane Machiavelli, qui est aussi mondo-blogueur, insiste sur la tradition malienne du vivre ensemble.
Au Mali, il y a seulement une vingtaine d'années, devant la porte de nos maisons, on mettait des djidagas, des jarres d'eau. On trouvait donc toujours une jarre remplie d'eau devant chaque habitation à l'intention des passants voulant éventuellement se désaltérer. Les jeunes filles de la famille étaient tenues de la propreté et du remplissage régulier du djidaga et les garçons s'occupaient de l'arrosage des arbres. Cette pratique aujourd'hui révolue était l'expression de la générosité des Maliens car la culture malienne se caractérise par le partage et l'ouverture à l'autre. On supposait qu'une personne ne devait pas avoir à demander ni à souffrir pour trouver de l'eau. Il était inconcevable que quiconque peine ou doive débourser de l'argent pour trouver à boire. Chaque passant devait pouvoir étancher sa soif ou mettre sa tête à l'ombre d'un arbre. Bref, prendre un peu de répit. Les devantures des maisons étaient donc adaptées et accueillantes, telles des oasis. Au Mali, les choses indispensables à la vie, comme par exemple avoir un toit, boire de l'eau, se nourrir, ne devaient manquer à personne. Les choses essentielles étaient les mieux partagées, des usufruits. Cela a toujours fait partie de notre culture. Quand vous entriez dans une maison, avant toute chose, on vous apportait de l'eau. C'était le cas partout. Aujourd'hui, quelques rares familles continuent à perpétuer cette pratique séculaire du djidaga, de l'accueil et du partage. Même si pour des questions d'hygiène dans certains endroits, les jarres d'eau ont été remplacées par des robinets à l'extérieur des concessions. Cette pratique est simple, mais elle est capitale et très significative, car il s'agit de tendre la main à son prochain, car nous ne sommes rien sans les autres. Qui suis-je? Que puis-je seul? C'est l'autre qui donne tout son sens à la vie. C'est pourquoi dans chacune de nos actions, une attention particulière est accordée à l'autre. C'est l'expression naturelle de nous-mêmes. On considère que ce qui est à soi est aussi pour toute la communauté. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, la vie et le bonheur se conjuguent au pluriel. N'oublions pas que le Mali est le pays de vivre ensemble. Différentes ethnies, cultures et traditions y coexistent, avec comme dénominateur commun la paix et le partage. N'oublions pas non plus que nous venons au monde dans la main des hommes et nous repartons dans la main des hommes.
S'il y a une règle qui est parmi les plus partagées dans le monde, c'est le respect des anciens. C'est notamment le cas sur le continent africain. Allons au Burkina Faso avec la mondoblogueuse Laetitia Nabi qui nous raconte l'histoire de sa grand-mère, qu'elle appelle sa dame de fer.
Le récit de ma mère sur son enfance m'a permis de comprendre que malgré toute sa gentillesse, ma grand-mère a traversé de grandes difficultés au cours de sa vie. Ma grand-mère est originaire de la Côte d'Ivoire. Dans les années 60, elle a rencontré un jeune homme burkinabé avec qui elle s'est mariée. La vie en terre ivoirienne n'était pas du tout facile, alors ils ont décidé de partir pour le Burkina Faso. Arrivée dans ce pays, elle ne connaissait personne et sans diplôme, sa plus grande difficulté était celle de chercher un travail. Un beau matin, avec ses petites économies, elle se mit à vendre de la bouillie. Malheureusement, la vie lui a retiré si tôt son mari, la laissant seule et sans personne à qui demander de l'aide. Elle décida de vendre la parcelle et de retourner en Côte d'Ivoire. Mais sa belle famille s'y est fermement opposée. Ils ont voulu lui imposer un nouveau mari conformément à leurs coutumes. Ma grand-mère est finalement restée seule au Burkina Faso, mais elle ne voulait pas prendre le risque de perdre sa maison. Que pouvait-elle faire? Il ne voyait en elle qu'une étrangère. À mon humble avis, il aurait été préférable que ma grand-mère retourne en Côte d'Ivoire pour ne plus souffrir. Mais je n'étais qu'une enfant et je ne pouvais pas interférer dans les discussions d'adultes. En 2011, mon oncle est finalement venu au Burkina Faso pour convaincre ma grand-mère de rentrer avec lui. Tout le monde avait hâte de la revoir, selon ses dires. Après plusieurs refus, elle a fini par accepter. Les habitants du quartier étaient émus de la voir partir et on souhaitait un bon voyage à cette vendeuse de bouillie. Ce jour-là, j'étais stupéfaite par tant d'amour et de reconnaissance pour cette dame de fer. D'après ce qu'elle m'a dit au téléphone, sa famille l'a accueillie en grande pompe. La chaleur des siens lui avait redonné le sourire. Malheureusement, une terrible nouvelle l'attendait.
Mondoblog.
Avant de continuer à écouter des Mondoblog audio, je vous propose de découvrir Millonaria, un titre de l'artiste franco-chilienne Ana Tijoux. Elle est née à Lille, ses parents, chiliens, ont pris le chemin de l'exil suite au coup d'état d'Augusto Pinochet en 1973. Mil defectos afortunada, estoy tapizada. Una familia que siempre me abraza, soy millonaria. Tengo mi piño, mi casa, mi gata, estoy tapizada. Una familia que siempre me apaña.
Tenemos palacio, ni tenemos tanto, tenemos cariño. De tantos abrazos nos faltan los brazos, sobra la ternura. Tenemos lingote y amor de fortuna, billete de besos. Cariño impreso, mimo y afecto, ¿qué más queremos? No hay más nada. Tenemos este amor que todo calma. Tenemos los panas que están de verdad. Los que te apoyan, te llenan, te
perfecto, afortunada, estoy tapizada. Una familia que siempre me abraza, soy millonaria. Tengo mi piño, mi casa, mi gata, estoy tapizada.
Una familia que siempre me abraza.
Millonaria.
Vous êtes toujours sur RFI, on continue avec Mondoblog Audio. Et cette fois-ci, c'est au tour de l'entrepreneur et blogueuse tchadienne Sandrine Nagertiga, une éternelle afro-optimiste qui rêve d'une Afrique debout, brillante et forte. Les jeunesses africaines devraient, selon elle, s'emparer de l'immense potentiel de ce continent.
Les maladies, les guerres, la famine, la pauvreté en général, tant de malheurs et de clichés qui stigmatisent l'Afrique. Au-delà de ces images négatives, des personnes qui vivent sur le continent nous épatent et nous fascinent par leur capacité à l'apprécier et le développer. Il faut voir cette Afrique qui bouge. Grâce à sa jeunesse et aux classes moyennes qui émergent, on peut dire que le continent africain est LE continent de demain. Nombreux sont ceux qui croient plus que jamais au potentiel de ce continent. Ils osent même le pari d'entreprendre et, grâce à leurs initiatives, ils contribuent à son développement. Le continent fait face à de nombreuses difficultés. Son économie est l'une des moins développées du monde. Pourtant, certains s'en saisissent et transforment ces difficultés en opportunités. Ils entreprennent en imaginant des solutions. On voit ainsi naître une multitude de projets innovants dans les secteurs aussi divers que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'artisanat, l'énergie ou encore les médias. Ce continent regorge d'opportunités. L'entrepreneuriat se développe de plus en plus. Il faut dire que c'est devenu un véritable phénomène de mode en Afrique. Si autrefois on entreprenait par nécessité, aujourd'hui on entreprend plus par envie et par détermination. Un entrepreneur est par simple définition une personne qui va passer de l'idée à l'action, qui va tout faire pour concrétiser son projet et pour le voir se développer. On réalise une envie, on concrétise le projet qui nous tient tant à cœur et on se motive pour le rendre durable. Et si on échoue, bah tant pis, on aura au moins essayé. C'est cet état d'esprit nouveau que l'on doit avoir en Afrique. Un des problèmes majeurs qui malheureusement freine beaucoup de choses, c'est la mentalité. Quand le résultat n'est pas bon, que l'on n'y arrive pas, c'est toujours de la faute de l'autre. Mais à l'inverse, quand quelqu'un réussit, on dit que ce n'est pas normal. Et c'est sûrement aidé de pouvoirs mystiques. Mais non ! Avec de l'ambition, du travail et de la détermination, beaucoup osent et y arrivent. Les projets qui se concrétisent montrent que c'est possible. Cela nous inspire et nous donne le goût d'aller de l'avant. N'ayez crainte, ce n'est pas sorcier. Il faut juste se prendre en main. Ensuite, ça se travaille, ça se vit. Alors on s'y met ? Les entrepreneurs africains sont pour moi d'excellents ambassadeurs de l'Afrique. À travers leurs projets et leurs réalisations, ils mettent en avant la culture africaine et participent à redorer son image. Que pouvons-nous et devons-nous faire pour être les acteurs de l'Afrique de demain ? À nous de réfléchir et de décider quel avenir nous voulons pour notre continent. À nous le rêve africain.
Pour terminer cette sélection de Mondoblog Audio, nous avons fouillé dans les archives de l'Atelier des médias pour retrouver la première collaboration audio avec un auteur de Mondoblog. Nous étions tout début novembre 2014. Ziad Mahalouf, qui présentait alors l'atelier, avait proposé aux blogueurs de participer à une émission consacrée à la première journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Une journée créée par l'ONU après l'assassinat au Mali de Claude Verlon et Ghislaine Dupont, envoyée spéciaux de RFI à Kidal. Dania Ebongé, journaliste à la CRTV au Cameroun et éminent mondoblogueur, avait répondu présent. Il proposait une fiction sur le thème « Une journée sans information ».
Merci d'écouter RFI, il est 15h à Paris, 13h à Bamako et en temps universel.
Le jour où mon micro s'est tu. Il y avait comme un air de froid, le jour où mon micro s'est tu. Jamais une expression n'avait été aussi vraie. Silence radio. Les ondes du monde devinrent immondes. Oui, le jour où mon micro s'est tu, la parole fut arrachée, pas à la rue publique, à la place de la République. La rumeur grimpait au gré de ses humeurs et il n'y avait plus de traces de la vérité ni de traces de la mémoire vive contemporaine. L'historien du présent, qu'est le journaliste, fut remplacé par un club d'imposteurs qui se faisait passer pour des confrères. Non, ce n'étaient pas des confrères, mais des frères cons. ils envahissaient les bars de Yaoundé, les maquis de Cocody et les marchés de Bangui. Chacun y allait de sa fausse histoire et le peuple gobait. Il ingurgitait ce liquide édulcoré qu'est la désinformation. Il avalait cette pilule et se consolait de ses faux témoins oculaires, ravis de voler la vedette aux journalistes d'hier, muselés par la censure, prisonniers de la torture, victimes de l'imposture. Il y avait comme un vent trop froid le jour où mon micro s'est tu. Jamais une expression n'avait été aussi vraie. Le plus beau métier du monde. Ce jour-là pourtant, un journaliste est mort. Jean-Hélène. C'était un triste 21 octobre 2003. Et pourtant pour lui, être journaliste, c'était le plus beau métier du monde. Il est mort pour ce qu'il aimait faire, informer. C'était le plus beau métier du monde pour celui qui, même au plus profond de la frayeur journalistique, savait dire en direct.
Voilà comment ça se passe, et dans l'hôtel ici où nous sommes réfugiés, Mille Collines, les gens ont peur, même les blancs ont peur, oui.
Le jour où son micro s'est tu, on a tous eu une âme de reporter. On a compris que s'il n'était pas là, on n'aurait pas eu les échos du génocide rwandais ou ceux de la guerre civile ivoirienne. C'est vrai que pour nous, RFIDEL, le micro des journalistes de cette chaîne était le pont entre l'imaginaire d'une réalité lointaine et la vérité d'une information sur le terrain. Ghislain Dupont et Claude Verlon étaient justement deux professionnels du terrain. Leur micro s'est tué un 2 novembre au nom de l'information sur le terrain du conflit malien. Encore, me suis-je dit. J'avais le souvenir d'un autre micro qui s'est tué le 11 novembre 2001, celui de Joanne Sutton. Elle berçait ma tendre enfance à Douala lorsque les ondes FM de Malabo envahissaient la capitale économique du Cameroun. Le micro de Joanne s'est tué en Afghanistan. Sans elle, je n'aurais pas su. Sans elle, je n'aurais pas entendu. J'ai donc compris que le jour où mon micro s'est tu, il n'y avait plus de liberté d'expression, plus de droits de l'homme, plus d'opinion, plus d'alternance. Il n'y avait plus l'espoir d'un nouveau lendemain, d'un progrès possible, d'une révolution des mentalités. Le jour où mon micro s'est tu, la parole fut bâillonnée, l'information fut scellée, la vérité fut démentie. Ce jour-là, rien ne bougea en Afrique. Les mêmes dictatures s'éternisèrent au pouvoir. Les mêmes propagandes religieuses s'enracinèrent dans les cœurs des hommes et des femmes. Plusieurs radios Mille Collines virent le jour et la haine fut la devise du continent. Ils encouragèrent la corruption, promurent le tribalisme, développèrent le clanisme. Parce que mon micro s'est tu.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Le journaliste et blogueur camerounais Dania Ebongé, que l'on salue s'il nous écoute, ici enregistré en 2014, clôt cet atelier des médias consacré aux audios de Mondeblog. Mondeblog Audio se poursuivra donc chaque jeudi à compter du 4 avril dans l'émission 8 milliards de voisins sur mondeblog.org et sur la chaîne YouTube de RFI. C'était l'Atelier des médias de RFI, une émission de radio diffusée d'abord en podcast. Elle vous est proposée par Simon Decreuse, qui réalise l'émission, et moi-même, Steven Jambeau. Le rendez-vous, vous le connaissez, c'est chaque samedi sur l'application de podcast de votre choix. On vous recommande Pure Radio, l'appli qui donne toute leur place au contenu audio de RFI. On est aussi le dimanche à la radio. Pour nous contacter, envoyez-nous un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.